Alors, bonsoir. Dernier exposé sur le mystère même de la résurrection ce soir. On a regardé les apparitions de Jésus dans l'évangile de Jean. Comment Jean retrouve la foi, comment Marie-Madeleine retrouve la foi, puis les dix, puis Thomas, puis la pêche miraculeuse et la dernière fois le dialogue avec Pierre. On aurait pu étudier aussi d'autres apparitions, il y en a à peu près une dizaine dans le Nouveau Testament. On a laissé de côté les pèlerins d'Emmaüs, par exemple. On pourrait regarder l'apparition même à Saint Paul sur le chemin de Damas. On n'a pas regardé l'apparition au moment de l'ascension, la dernière apparition du Christ à ses disciples. Donc il y aurait d'autres récits d'apparitions à considérer. Mais il m'a semblé intéressant de me focaliser sur Jean à cause de cette question des passages sur lesquels on a insisté pour en faire comme une théologie de l'espérance. Avec ce premier passage avec Jean, des ténèbres à la lumière, avec Marie-Madeleine, de la tristesse à la joie, avec les dix qui étaient claquemurés, de la peur à la paix, puis avec Thomas qui lui était à l'extérieur mais dans la négativité, donc du doute à la foi. Et puis finalement, avec la pêche miraculeuse de la stérilité à la fécondité, et puis avec Pierre, de la culpabilité à la miséricorde. Tout ça, ça pourrait constituer une théologie de l'espérance, puisque c'est le thème du jubilé cette année. On avait insisté sur cette question de l'espérance, surtout dans le premier exposé. Et on a maintenant des éléments pour faire une théologie de l'espérance. L'espérance étant un passage, toujours de l'angoisse à l'espoir. Et tous les gens qu'on rencontre qui sont désespérés, on est amené à leur faire un de ces passages. Nous-mêmes, on passe parfois des ténèbres à la lumière, de la peur à la paix. Ces passages, ces exodes, on pourrait dire, on a à les faire nous-mêmes et puis ensuite à aider les autres à le faire. Comme ça, on devient pèlerin de l'espérance. Alors, on aurait pu aussi regarder, ça aurait été une autre manière de procéder, les miracles de résurrection dans la Bible. Il y en a 7 ou 8. Dans l'Ancien Testament, il y en a 2 ou 3. Par exemple, vous avez le prophète Élie. Élie qui va chez une veuve qui a perdu son fils. Elle est veuve et elle perd son enfant. La fameuse veuve de Sarepta, et Élie ressuscite cet enfant. Première résurrection dans l'Ancien Testament, préfiguration de la résurrection de Christ. Vous avez aussi son disciple, le disciple d'Élie, c'est Élisée. Et il fait tout comme son maître, mais 2 fois. Élie a fait 7 miracles, Élisée en fait 14. Ça. Et il en a fait un miracle de résurrection, il guérit le fils d'une femme qu'il accueillait chez lui, la Shunamite, comme on l'appelle, et elle perd son fils, il le ressuscite. Et alors, il y a un autre miracle d'Élisée qui est assez étonnant, puisque je me suis toujours demandé, quand vous comptez les miracles d'Élie, il y en a 7, et Élisée, quand Élie doit partir, il demande « Donne-moi double part de l'esprit d'Élie ». Et en fait, on voit dans sa vie, il y a 13 miracles. On se dit « Ah, il en manque un, c'est dommage ». Et bien, en fait, il y en a un, puisque Élie est enterré quelque part, et puis un jour, il y a des gens qui sont en train d'aller enterrer un mort, et puis leurs ennemis arrivent, ils n'ont pas le temps de l'enterrer, ils le jettent dans la première tombe venue, et c'est la tombe d'Élisée. Et là, le cadavre touche les os d'Élisée et ressuscite. 14e miracle d'Élisée, post-mortem. Donc ça, c'est assez étonnant de voir ça. Jésus, il a fait combien de miracles de résurrection? 3. On a d'abord la veuve de Naïm, où le mort est en train de transporter au tombeau. Jésus arrête le convoi et puis touche le cadavre et le rend à sa mère. Premier miracle. Il y a après la petite fille de Jaïr. Jésus vient la voir et lui dit « Talitha koum ». Elle n'est pas morte, elle dort, dit-il. « Talitha koum, petite fille, lève-toi ». Et là, elle ressuscite. Et puis il y a son ami Lazare, on en parlera un peu ce soir. Et dimanche prochain, pour ceux qui seront à la messe avec les catéchumènes, on aura l'évangile de Lazare, qu'on lira en entier d'ailleurs. Vous voyez, 3 miracles de résurrection avant lui-même de ressusciter. Alors ça fait tout ça déjà six miracles de résurrection. Et dans le Nouveau Testament, on voit encore deux autres miracles. Vous avez Saint Paul, Saint Pierre d'abord, qui ressuscite Tabitha, qui était une femme qui était connue pour sa foi chrétienne. On vient chercher Pierre, on lui dit elle est morte, et du coup il va la ressusciter. Donc Pierre a fait un miracle de résurrection. Et puis vous avez mon miracle préféré de résurrection, c'est Saint Paul. Parce qu'un jour il parlait, et on nous dit que c'était tard la nuit, c'est dans les Actes des Apôtres, il parlait longtemps, longtemps, si bien qu'il y a un enfant qui tombe du balcon, un jeune qui tombe du balcon et il meurt. Alors il va le ressusciter. Puis après, il reprend son discours, tout simplement. Mais alors moi j'aime beaucoup, parce que ça, si jamais vous endormez pendant les homélies, même Saint Paul, vous voyez, le type, il était épuisé à écouter Saint Paul, quoi, qui devait prêcher, le pape dit pas plus de 7 minutes, Saint Paul, ça devait être pas plus de 7 heures, quoi. Et donc là, j'aime beaucoup ce jeune qui tombe crevé, quoi, pendant le sermon. Alors les charismatiques, ils disent que c'est un repos dans l'esprit. Moi, je crois pas du tout, hein, c'est le type, il pionçait. Donc on aurait pu prendre aussi ça. Mais vous voyez qu'on prenne les résurrections du Christ, les apparitions du Christ ou les miracles de résurrection, en fait, ce n'est pas le mystère de la résurrection, ce sont des signes. Personne n'était là quand Jésus est ressuscité, en fait. Et donc, ce soir, il faudrait passer des signes au mystère, des signes du signifiant au signifié, si vous voulez le dire de façon un peu pompeuse, du miracle au mystère. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Il faut conclure comme ça. On a regardé les apparitions du Christ ressuscité qui sont des signes de sa résurrection. Mais le mystère même, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans la nuit que ça s'est passé, quand l'âme et le corps de Jésus-Christ ont été à nouveau réunis. Et ça, c'est quoi ce mystère-là? On vit tous du mystère de la résurrection. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Donc c'est pas seulement « je vais vous apparaître » ou « j'ai fait des miracles », c'est que Dieu est résurrection. Donc c'est ce mystère-là qu'on va essayer d'approcher ce soir. Alors quand on est en théologie et qu'on regarde les mystères, on procède toujours par analogie. On essaye de trouver des images, des métaphores, des analogies plus ou moins profondes. Et on va essayer de savoir d'abord quelles sont les meilleures images, les meilleures analogies pour parler de la résurrection. Déjà, vous pourriez remarquer que dans la nature, chaque année, il y a comme des moments de résurrection. Il y a l'hiver, et puis le printemps arrive. Alors ça tombe bien, on est tout proche, là. Tous les matins, avec les frères, on a un marronnier en face de nous, là. Et donc, il y a toujours un frère qui dit, t'as vu, on voit les petits bourgeons, puis très vite, hein, quand ça commence à venir, c'est très très rapide, ça commence à bourgeonner, puis dès le lendemain, des petites feuilles, puis après, tac. Et donc, tous les jours, on a cette joie de voir l'arbre qui... oui, le printemps, en fait. Ça semblait mort, ça revient à la vie. Donc là, je pense que chaque année, on a quelque chose qui nous rappelle la résurrection, ne serait-ce que dans la nature. C'est vrai aussi de la lune. Vous avez une lune, une nouvelle lune, chaque mois. Elle semble disparaître, etc. Puis après, à chaque fois, renaissance de la lune. Chaque jour... Le soleil se couche, comme on dit, met son pyjama, et c'est la nuit. Et puis à chaque fois, triomphe de la lumière sur la nuit. Donc rien que dans le cosmos, on a déjà des images de la résurrection. Le grain de blé, il meurt et il renaît. Ça, c'est une image que Jésus lui-même prendra. Hein. Il faut que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Donc il y a un cycle comme ça dans la nature. Puis vous avez la fameuse légende du phénix. Vous vous souvenez, hein, le phénix, cet oiseau, l'oiseau de feu, comme on dit, parce que c'est un oiseau légendaire qui est censé, selon les différentes traditions, il vit 500 ans, voire 5000 ans, plusieurs milliers d'années. Et puis quand il voit sa mort arriver, eh bien, il fait un nid, il y met des épices et de l'encens, puis il y met le feu et il entre. Et à ce moment-là, il est réduit en cendres et il y a un petit oisillon qui à chaque fois renaît. Donc le fameux phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est curieux, hein, dans la culture contemporaine, c'est très présent le phénix. Je crois qu'à l'Eurovision, un qui avait gagné il y a 2 ans, sa chanson c'était Phénix. Lady Gaga, une chanson Phénix. Harry Potter, la question du phénix est très présente chez Harry Potter. Vous allez le retrouver curieusement comme ça, comme s'il y avait au fond cette mythologie de mourir et de revivre. Donc c'est, en fait, c'est très présent. Ça montre à quel point il y a une nostalgie de la résurrection, presque dans toutes les cultures en fait. Et toutes ces analogies sont bonnes, mais c'est un peu des. J'irais. Si j'étais méchant, je dirais que c'est un peu des métaphores de bas étage quand même. Je pense que la seule analogie, la vraie analogie pour parler de la résurrection, en fait, c'est l'amour. L'amour réclame l'immortalité. Tous les grands romans d'amour sont sur ce thème, en fait. L'amour réclame l'immortalité. Quand je dis à quelqu'un je t'aime, ça veut dire que c'est pour toujours et à jamais. Je ne dis pas je t'aime pour 3 quarts d'heure. Enfin, sinon, on voit bien de quoi il s'agit. Je t'aime pour quelques années. Non, si c'est une vraie déclaration d'amour, elle est pour toujours. C'est par-delà la mort même. Ça appelle en fait l'éternité. Quelqu'un qui est athée et qui pourtant a le sens de ça, et en voit bien la nostalgie, c'est Luc Ferry. Enfin, si vous connaissez ce philosophe moderne, contemporain, hein, qui a été ministre de la Culture en France. Il a écrit un livre sur les paradoxes du bonheur et il parle du fameux mythe de Tristan et Iseult. Vous savez, Tristan et Iseult, hein, là encore une légende, ils tombent fous amoureux parce qu'en fait ils ont bu un filtre d'amour qui n'était pas destiné. Alors, en fait, il y a eu un bug, c'était pas pour lui. Et donc, ils tombent tous les deux fous amoureux. Et alors, ils meurent tous les deux, comme souvent, hein, tous les romans d'amour, ils meurent à la fin, parce que c'est romantique tant que c'est pas le quotidien, quoi. Pardon. La fin du roman s'arrête où commence le quotidien, comme dit c'est Claude Nougaro, je crois, quand le prince charmant devient le vilain mari. Alors, c'est dans la mort que Tristan et Iseult se retrouveront à la fin de l'histoire, comme l'indique de manière frappante le tout dernier épisode de la légende, où l'on voit une ronce sortir du cercueil de Tristan pour plonger dans celui d'Iseult. Et ils sont leur tombés l'une à côté de l'autre, et puis tout d'un coup, il y a une ronce, ou ça dépend selon les traditions, c'est un rosier ou peu importe. Et puis là, par-delà la mort, les deux arbres s'enlacent. Il dit, c'est donc seulement dans la mort que les deux amants pourront se retrouver. L'alliance de la vigne et de la rose apparaissant ainsi comme la leçon ultime du récit. Certes, le soupirant finit toujours par rendre son dernier soupir, mais le message qui se dégage du mythe, c'est que l'amour est plus fort que la mort. Manière de dire à nouveau qu'il joue bel et bien ici le rôle du véritable sacré, de l'éternel, en quoi il s'apparente au divin lui-même. On voit hein, chez un philosophe athée ce sens, il a perçu que l'amour appelle l'éternité, donc il devrait se prolonger par-delà la mort, il faut qu'il y ait une immortalité, il faut qu'il y ait une résurrection, sauf que lui n'y croit pas. Il le dit d'ailleurs à un moment encore dans un beau passage. C'est au fond dans la même logique que s'inscrit la théologie chrétienne du mariage. Comme dans le récit d'Ampulée, elle nous promet que l'amour se déploie sur fond d'immortalité, pourvu du moins qu'il soit, selon la belle formule d'Augustin, amour de Dieu et non pas hors de lui. De ce point de vue, le christianisme apparaît bien comme l'une des rares doctrines susceptibles d'inscrire la passion amoureuse dans l'oraison d'un bonheur durable. À ceci près, bien sûr, qu'il est à cette félicité une condition, il faut avoir la foi. Donc on voit bien, comme lui ne l'a pas, il dit au fond, c'est le seul système où l'amour pourrait être immortel, mais moi je n'y crois pas. Mais oui, on voit cette nostalgie, hein, et c'est pour ça que je crois que finalement, la vraie analogie pour parler de la résurrection, c'est d'entrer dans la logique de l'amour. L'amour réclame en fait la résurrection. Alors, il y a des grandes résurrections, puis il y a des petites. À chaque fois, finalement, que l'amour est plus fort que le ressentiment. Eh bien, c'est comme une petite résurrection. Je vous donne un exemple, c'est dans la vie de Dostoïevski. Il écrit un jour à sa femme, le 28 avril 1871, une lettre bouleversante. Il faut savoir que Dostoïevski, qui a vécu à Genève, hein, il avait une addiction au jeu. Il a sacrifié au jeu le moindre rouble, le moindre kopeck qui était en sa possession. Il était si désespéré, si dévoré par le désir de mettre fin aux tourments et aux vexations qui l'accablaient, que dans l'espoir de gagner cette fois-ci, il dilapidait tout son argent. Et c'était un véritable enfer. Et tout effort pour en sortir était vain. Aucune bonne résolution ne suffisait. C'était une humiliation constante. Et une fois en plein hiver, par exemple, il a joué le manteau de son épouse. Et il a perdu. Il a même joué la bague de fiançailles, les boucles d'oreilles de son épouse. Il a perdu. Il n'y avait apparemment aucune limite. Mais dans la nuit du 28 avril 1871, il lui écrit « Anna, il faut que tu me laisses une dernière chance. Il faut que tu me croies. Qui sait combien de fois j'ai juré de ne jamais retourner à la table de jeu. Je sais que tu aurais mille raisons, encore une fois, de ne pas me croire. Mais depuis cette nuit, je sais que cela est vrai. Un nouvel homme est ressuscité en moi. Désormais, je travaillerai, je t'aimerai et j'aimerai les enfants. Je n'irai voir aucun prêtre, car celui-ci me ferait ressasser le passé, m'y enfermer. » Bon, ça, c'est pas sympa. « Je te confesse toute la vérité, tout ce qui était, tout ce qui est. À partir de cette nuit, je suis un homme libre. » Alors, son épouse Anna lui a envoyé une nouvelle fois 30 thalers d'argent. Elle avait fait une douzaine fois l'expérience que ça servait à rien, mais elle l'aimait. Vous voyez, l'amour espère tout, dit saint Paul. Donc c'est une image de la résurrection. Alors c'est pas à prendre à la lettre, hein, il y a des fois de la prudence à exercer, mais je prends cet exemple simplement comme victoire de l'amour sur le désespoir vis-à-vis de quelqu'un. Je t'aime trop pour désespérer de toi. Et donc c'est ça au fond, l'amour comme véritable analogie pour parler de la résurrection, je crois. L'amour espère tout. Quand on aime vraiment une personne, au fond on lui dit « il est bon que tu existes ». Le monde serait infiniment plus beau que si est infiniment plus beau avec toi que si tu n'existais pas. C'est ça l'idée. Et donc du coup on veut que la personne dure toujours, puisque le monde est moins beau sans toi. Donc l'amour peut pas mourir en fait. Dans la logique même de l'amour est inscrit le fait que l'éternité est nécessaire. L'amour espère l'immortalité. Et alors la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous aime. Et donc il espère l'immortalité pour nous. C'est ça en fait le fondement de la résurrection. À un moment il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». Ben c'est ça le gage de notre immortalité, parce qu'on peut se passer d'un serviteur, on ne se passe pas d'un ami. Donc c'est comme si Jésus nous disait « Il est bon que tu existes, le monde serait infiniment moins beau si tu n'existais pas. » Et alors comme il a la puissance par sa résurrection de nous faire exister toujours, on peut dire que c'est ça finalement le mystère même de la résurrection. Son amour nous fait vivre. Et son amour veut que nous vivions toujours. Donc on comprend ici que parce qu'il est ressuscité, nous ressusciterons en fait. C'était l'intuition du début de cette session ensemble. On avait dit que si on veut creuser l'espérance, il faut creuser la résurrection, puisque c'est la résurrection qui est le fondement de l'espérance. Là, on le comprend. C'est l'amour du ressuscité pour nous qui fait que nous devons ressusciter. Alors c'est ce qu'on va voir avec ce miracle, quel miracle de l'amour, Lazare, son ami, ça commence comme ça, « Celui que tu aimes est malade ». Donc tout de suite, le contexte, c'est celui de l'amour d'amitié. C'est celui de l'amour de Jésus, l'amitié de Jésus pour Lazare. « Celui que tu aimes est malade ». Ça commence par cette phrase et ça se termine par la résurrection. Vous voyez le lien entre l'amour et la résurrection. « Celui que tu aimes est malade », alors Jésus va aller devant sa tombe et va dire « Lazare, sort. » Vous vous souvenez que d'abord, il reste deux jours. On se dit « Mais pourquoi il reste deux jours ?» On lui dit que ça urge. Il reste 2 jours. Bah, calculez les distances et vous allez voir. Jésus se tient quelque part, près du Jourdain, et on l'appelle depuis Béthanie, il y a une journée de marche. Il reste 2 jours. Ensuite, il fait une journée de marche. Donc, entre le départ des serviteurs et l'arrivée, ça fait combien ? 4 jours. Et quand il va ressusciter Lazare et il va aller près du tombeau, on lui dit on ne peut pas ouvrir la pierre, il sent déjà, c'est déjà le 4e jour. Ah. Intéressant, ça veut dire qu'au moment où les autres lui parlaient, il était déjà mort depuis 1 jour, Lazare. Au moment où il partait, Lazare mourait. Donc il peut bien rester 2 jours. De toute façon, rester 2 jours ou pas, Lazare, il est déjà mort. Au moment où il lui annonce « Celui que tu aimes est malade », en fait, il n'est pas malade, il est déjà mort. Bon, ça, c'est un détail. Et vous voyez que quand, en tout cas, la phrase qui va être récurrente, qu'ils ont dû se répéter en boucle entre Marthe et Marie, c'est « Si tu avais été là, il ne serait pas mort ». Donc il y a un gros reproche, là. Tu dis que t'es son ami, n'empêche, tu n'étais pas là quand il avait besoin de toi. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Ça va revenir constamment. Et alors là, à ce moment-là, il dit à Marie ou à Marthe, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Et Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Donc là, on entre dans le mystère. Hein, c'est dans le « Je suis » de Jésus que se situe le mystère. Les miracles, les apparitions, ce n'est pas le « Je suis » de Jésus. Là, c'est « Je suis la résurrection et la vie. » « Ego eimi et anastasi kai et zoe » ou en latin « Ego sum resurrectio et vitae » Vita. Alors, saint Thomas d'Aquin, quand il analyse cette phrase, il dit « Tiens, c'est bizarre, comment quelqu'un peut dire « Je suis la résurrection » Il peut dire « Je suis ressuscité », mais qu'est-ce que ça veut dire « Je suis la résurrection » Saint Thomas d'Aquin explique que c'est ce qu'on appelle une locution causale. Ça veut dire, en fait, « Je suis cause de résurrection ». Un peu que si, par exemple, le feu brûle, il peut dire « Quelqu'un avait le pouvoir de vous brûler », il dirait « Je suis le feu ». Et donc, en fait, l'idée, c'est ça, dire « je suis la résurrection », c'est-à-dire « si tu me touches, tu ressuscites ». Comme le feu pourrait dire « je suis le feu, tu me touches, tu brûles ». « Je suis la résurrection et la vie, tu entres en contact avec moi, tu vis ». Et puis ensuite, on nous dit « Jésus pleura ». Ça, c'est le verset le plus court de la Bible. 2 mots, « Jésus pleura ». Et les gens disent quoi ?« Voyez comme il l'aimait ». Ils ne disent pas « Voyez comme il pleure ». Ils remontent tout de suite à la source. C'est bien tout un récit qui est au cours, et on le réentendra hein, ce dimanche, c'est un récit qui est autour de la question de l'amour qui va ressusciter quelqu'un. Alors il s'approche du tombeau et dit « Lazare sort ». Donc c'est ça vraiment l'enjeu de la résurrection. C'est de ressusciter nous-mêmes à la voix de Jésus, quoi. Et là, il se relève d'entre les morts. Le mot pour dire résurrection, c'est anastasis en grec. Ana, ça veut dire, ça signifie en haut, vers le haut. Et puis stasis, c'est se tenir. Hein, en latin, c'est stare. Stabat mater dolorosa. Marie se tenait au pied de la croix, là, comme la Vierge douloureuse. Stabat mater. Donc c'est stasis en grec. Donc c'est. Vous voyez, c'est l'idée de se tenir vers le haut. Donc, l'idée de se remettre debout. Ça, la résurrection. Anastasis. Alors, cette élévation, eh bien, elle est le fruit de l'amour. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre ce soir. L'amour divin nous fait tenir debout. L'amour divin nous ressuscite. Donc, c'est à nous de ressusciter. Grégoire de Nazianze a cette belle parole et dit « Sur la parole, 3 parmi les morts ont vu la lumière. » Je vous disais, hein, la fille de Jaïr, le fils de Naïm, de la veuve de Naïm et puis Lazare. Alors, « Sur la parole, 3 parmi les morts ont vu la lumière. La fille du prince, l'enfant de la veuve et Lazare, sorti du tombeau à demi décomposé. Fais que je sois le 4e. » Je trouve ça très beau comme prière. Jésus, tu as ressuscité 3 personnes, fais que je sois la 4e. Est-ce que vous avez noté ce qui va se passer en 2033? Bientôt, hein? En 2033, nous allons fêter le 2000e anniversaire de la résurrection du Christ. Moi, si j'étais pape, en 2033, ça sera sans doute pas François, hein. Pas être prophète de malheur, mais enfin, il va pas bien. Bon. Le prochain pape, moi, je mettrai le cap tout de suite sur 2033. Nous sommes la génération qui allons vivre le 2000e anniversaire de la résurrection du Christ. Christos Anesti. Christ est ressuscité. Là, c'est un vrai événement. On a le jubilé cette année. Moi, je crois qu'il y a quelque chose à faire là, entre le jubilé maintenant, entre 2025 et 2033. Là, il faut mobiliser les troupes. Là, on a 2000. Ça doit être un super anniversaire. Alors, je termine sur la prière. Puisque finalement, comment on va mettre en œuvre l'espérance? Eh bien, c'est par la prière. Spécialement la prière de demande. Je vous disais lors du premier exposé que l'espérance, elle implique trois composantes. Le désir, la confiance, la combativité. Eh bien, c'est exactement ça que va impliquer la bonne prière chrétienne. La prière, c'est d'abord l'expression de votre désir. Tant qu'on aime, on ne peut pas s'empêcher de désirer. C'est pour ça que c'est normal, même si les médecins ont un diagnostic où vous dites humainement, c'est plus la peine de prier, c'est foutu. En fait, vous ne pouvez pas. Vous demandez un miracle à ce moment-là. Et c'est normal. Mais vous ne priez pas en vous disant « ça va arriver forcément, Dieu va faire un miracle et j'essaye de m'en convaincre ». Si ça vous est donné, c'est que la foi est là, et il y a une foi charismatique qui est là, à ce moment-là, ça va se passer. Mais très souvent, ce n'est pas la peine de se forcer. Ma raison me dit que oui, ok, mais mon désir, et je ne peux pas renoncer à mon désir, c'est pour ça que, quels que soient les résultats, je continuerai de prier, parce que je désire, en fait. Je dis à Dieu mon désir. C'est ça, d'abord, la prière. Alors, ce désir, il implique une confiance. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Je peux tout en celui qui me donne la force. Bien des phrases me disent qu'il faut prier avec confiance. Dieu peut faire des miracles. Alors, ça peut-être que moi, je ne crois pas à ce miracle-là. Mais j'ai confiance au moins dans le fait qu'il va en faire du bien. Peut-être qu'il ne va pas réaliser exactement ce que je lui demande. Je voulais une Maserati. Il ne va peut-être pas me l'offrir à Noël, mais j'aurai à ce moment-là une petite Maserati pour jouer, toute petite là. En tout cas, il va faire du bien pour moi. Et donc c'est ça en fait, j'exprime à Dieu mon désir. Et j'ai confiance dans le fait que, de toute façon, il va en faire quelque chose. Pas exactement forcément ce que je voulais, mais moi, je lui fais confiance. Il va en faire le mieux. Et puis, ça implique de la combativité. Souvenez-vous de la parabole de la veuve qui va voir le juge inique. À la fin, il dit, elle commence à me casser la tête, je vais l'exaucer. Alors que il a un cœur en téflon, hein, le gars, il est inébranlable, il n'en a rien à faire de cette veuve. Mais elle lui casse tellement les oreilles qu'au bout d'un moment, il l'exauce. Et Jésus dit, Dieu ne ferait-il pas justice à ceux qui lui demandent ? Est-ce qu'il va les faire attendre ? Donc il y a une combativité. Pensez à Sainte Monique, la mère d'Augustin. Hein. Elle a prié dans les larmes pendant 16 ans. Elle avait un fils qui était hérétique, qui menait une vie de débauche, qui était babadisé. Pendant 16 ans, elle a prié. Elle voulait juste qu'il soit chrétien. Elle voulait juste qu'il ne soit plus dans l'hérésie. Elle voulait juste qu'il se fasse baptiser. Eh ben, elle était bien exaucée. Hein. Elle voulait qu'il soit baptisé, il est devenu un saint. Elle voulait qu'il devienne chrétien, il est devenu évêque. Elle voulait qu'il ne soit plus dans l'hérésie, il est docteur de l'Église. Donc... Là, on a un exemple de quelqu'un qui a été exaucé au-delà de ses espérances. Mais quelle ténacité ! Ça me fait penser à Claude de la Colombière qui disait ça. « Pour moi, j'avoue que plus je vois que Dieu me fait demander une même grâce, plus je sens croître en moi l'espérance de l'obtenir. Je ne crois jamais que ma prière est rejetée que quand je vois que j'ai cessé de prier. Lorsque, après un an de supplication, je me trouve avec autant de ferveur que j'en avais en commençant, je ne doute plus de l'accomplissement de mes désirs. Donc il y a un vrai combat comme ça dans la prière. Et je termine en appliquant ça au Notre Père, parce que c'est la prière par excellence. Hein. Dans le catéchisme de l'Église catholique, vous avez cette phrase « L'espérance s'exprime et se nourrit dans la prière, tout particulièrement dans celle du Notre Père. Résumé de tout ce que l'espérance nous fait désirer. » Ah, génial ! Le Notre Père est le résumé de tout ce que l'espérance peut vous faire désirer, y compris la Maserati, qui est impliquée dans « Donne-nous notre pain de ce jour ». Tertullien disait que le Notre Père, c'est le résumé de tout l'Évangile. C'est vrai, c'est le résumé du point de vue de l'espérance. Parce qu'on a 7 demandes, et dans ces 7 demandes sont compris en fait tout ce qu'on peut espérer de chrétien. Alors vous allez retrouver en fait la structure de l'espérance. Je termine très rapidement sur ça. Vous voyez, on a dit que l'espérance implique un désir. Eh bien, on a 2 premières demandes, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quel est mon désir ? C'est la gloire de Dieu, que ton nom soit sanctifié, et c'est de participer à sa gloire, que ton règne vienne. Ça, c'est pour le désir. Maintenant, comment je peux avoir confiance que ce désir va se réaliser ? Les 2 demandes suivantes. Que ta volonté soit faite. L'unique manière de sanctifier le nom de Dieu et de faire que son règne vienne, c'est de faire sa volonté. Donc j'ai confiance qu'il va faire sa volonté. Et j'ai confiance aussi qu'il va me donner le nécessaire pour travailler à sa gloire. Donne-nous notre pain de ce jour. Les 2 premières demandes, c'est le désir. Les 2 deuxièmes demandes, c'est la confiance. Et les 3 dernières demandes, vous entrez dans le combat spirituel. Pardonne-nous nos péchés, parce qu'on tombe. Ne nous laisse pas entrer en tentation, parce que l'avenir est incertain. Délivre-nous du malin, parce qu'il y a un chef d'orchestre qui essaye tout le temps de me faire des misères. Donc les 3 dernières demandes du Notre Père, c'est le combat spirituel. Donc vous retrouvez dans le Notre Père, finalement, la structure désir, confiance, combativité. Et c'est pour ça qu'en disant le Notre Père, vous pouvez revisiter votre espérance chrétienne. Le centre du Notre Père, parce que Jésus pensait en hébreu, pas en grec, même si nous, les évangiles, ils sont donnés en grec, vous savez que pour les hébreux, c'est le centre qui est le plus important. Pour nous, c'est l'introduction et la conclusion. Les hébreux, c'est le centre. Et si vous regardez le centre du Notre Père, c'est sur la terre comme au ciel. Origène suggère de dire qu'en fait, sur la terre comme au ciel ne concerne pas seulement la 3e demande, mais toutes les demandes, surtout les 3 premières. Que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et on pourrait finalement ramener tout le Notre Père à ce centre. On pourrait dire que tout le Notre Père, c'est Notre Père fait de la terre un ciel. Finalement, c'est ça qu'on veut. Notre Père fait de la terre un ciel. C'est ça, quand vous êtes fatigué, même si vous n'arrivez même plus à dire le Notre Père, vous pouvez toujours dire ça. Allez, cette fois, je termine par une parole qui est la parole qu'on ne doit pas dire pendant le carême, mais j'aime bien toujours faire des choses qu'on ne doit pas faire. Alléluia. Alors, Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire, Alléluia? Alléluia. Il y a 2 mots. Alléluia, c'est l'impératif pluriel du verbe halal qui signifie louer, célébrer. Et Yahweh, c'est le diminutif du nom sacré, le tétragramme, Yod et Vavé, Jéhovah, Yahvé, vous l'appelez comme vous voulez. Donc c'est littéralement, c'est louer Yah, louer Dieu. Chantons ici-bas l'Alléluia au milieu de nos soucis, disait saint Augustin, afin de pouvoir le chanter un jour dans la paix. Même ici-bas, au milieu des dangers et des tentations, chantons Alléluia. Aujourd'hui, frères, chantons donc Alléluia, non pour charmer notre repos, mais pour alléger notre fardeau. Comme chante le voyageur, chante Alléluia, chante et marche. Chante et marche, progresse dans le bien. C'est pas mal pour conclure. Sacré Augustin. Merci, bonne réflexion entre vous. Et puis à tout à l'heure.
Merci.